Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour. Jean 3, à partir du chapitre 14, l'évangile selon Saint Jean. Je dis Saint Jean, non pas parce qu'il est plus saint que nous autres, mais je pense que chacun de nous est saint, comme le dit la Bible, que celui qui est saint se sanctifie encore, ça s'adresse à chacun d'entre nous. L'évangile est selon Jean, chapitre 3, le verset 14e. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Le verset que nous allons partager, c'est le verset, je pense, le plus connu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut donc se dire, mais on le connaît ce verset. Eh bien, j'ai de nouveau plongé mon regard dans cette phrase. Et je pense que ce sont des choses que l'on connaît, mais une fois que l'on plonge encore son regard et qu'on va les décortiquer mot par mot, vraiment, on peut recevoir quelque chose. Et je crois que le Seigneur va vous le donner. La première chose que nous allons observer, qui est donc l'acteur de ce don? Nous avons trois acteurs là. Il y a celui qui donne, il y a le don lui-même qui est une personne qui n'a pas subi, qui n'a pas été juste là où on le mettait, mais qui a mis sa propre volonté. Le donateur est une personne divine, l'acteur don, une personne divine, et l'acteur bénéficiaire, lui aussi qui n'est pas passif, parce que nous voyons que le Seigneur Jésus dit, celui qui ne croit pas, qui choisit de croire ou pas, de recevoir ou pas, l'acteur bénéficiaire, c'est un être humain. D'abord, Dieu, celui qui nous a tant aimés. Qui donc est-il? Vous allez me dire, mais on le sait, c'est bon de rentrer dans le détail de ces choses. Bien entendu, celui qui serait ici et n'aurait jamais entendu parler de la Bible, n'aurait jamais feuilleté la Bible, c'est clair que la création démontre, alors sans contestation aucune, moi aussi je suis un scientifique. Celui qui m'écouterait ici, il dirait celui-là, est-ce qu'il a fait des études jusqu'à un certain niveau? Je vous dirais que moi aussi je suis universitaire. Je suis très humble, vous pouvez, j'essaie d'être humble, mais cela étant quelquefois, il faut pouvoir le dire. Il y en a qui pensent, vous savez, ils croient dans ces choses parce qu'ils n'ont pas poussé très loin leur réflexion. Eh bien, quelqu'un a dit ceci, il y faut beaucoup de foi pour penser que Dieu n'existe pas. Vous voyez, de foi entre guillemets, ça signifie il faut beaucoup d'obstination. En quelque sorte, la création, elle nous démontre l'existence du Seigneur. Et bien moi-même, aujourd'hui, vous-même, imaginez votre cœur qui bat, vous ne vous en rendez même pas compte. Ce cerveau, ce méga ordinateur qui est dans notre boîte crânienne, vous vous imaginez ce que ça signifie, ce que ça commande. Toute cette complexité, cette physiologie, ce qui est en train de se passer dans notre corps, les plus grands scientifiques qui ont étudié le corps humain, qui ont produit des médicaments, qui ont fait beaucoup de choses, n'ont pas encore fini, ne sont pas arrivés au fin mot. Et je puis vous dire, Moi aussi, je suis scientifique. Je pense que le fin mot, l'être humain, ne l'aura jamais. Il y a quelque chose qui va toujours lui échapper. Qu'est-ce qui va lui échapper donc? Mais le principe de vie lui-même. Est-ce qu'il y a un scientifique qui va fabriquer une cellule, puis une autre, et qui va les rapprocher, et quand ils vont se toucher, il se passera quelque chose, et ces cellules vont fusionner, vont commencer à se diviser, à créer un embryon, à créer un bébé qui naît. Jamais. Le principe de la vie, le principe lui-même, c'est une démonstration qu'il existe ce que des scientifiques ne veulent pas admettre. Ils vont l'appeler l'être suprême, le principe est premier, ils vont trouver des termes. Mais cela étant, nous savons quand même que la démonstration est claire là-dessus. Le principe de la vie, il est dans la main du Seigneur. Seul le Seigneur possède ce principe. Donc, Dieu existe. Mais aussi, nous observons quand même l'infiniment grand, ce que nos télescopes peuvent voir. Mais ces milliards de milliards d'astres, quelle est cette dynamique qui préside à tout ça? Personne ne sait le pourcentage de ce que l'on connaît par rapport à ce que nous ignorons. Tout ça, c'est vertigineux, ça nous dépasse. Mais Paul a écrit ceci. Dans Romains, vous ne recherchez pas Romains, chapitre 1er, versets 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Alléluia. Donc, ce que moi-même je suis, quand je me promène, que je sache que je suis une machine formidable, tellement complexe, qu'à moi-même, j'ai la démonstration que Dieu existe. Ce qui m'environne, c'est une démonstration que Dieu existe. Et je pense que le bon scientifique objectif, le meilleur chercheur objectif, il reconnaîtra qu'il y a quelque chose qui le dépasse et qui le dépassera toujours. Ne fût-ce qu'il est sûr et certain qu'il ne va jamais créer un grain de maïs qu'il va semer et qu'il va germer. Voilà, ça c'est clair. Donc, ça, c'est ce que nous pouvons percevoir. Mais la Bible elle-même en parle. Voilà. C'est la meilleure connaissance que nous puissions avoir, car c'est Dieu qui a parlé. Le Seigneur qui nous a aimés à ce point, non seulement il est grand par ce qu'il a fait, par la création, ce que nous sommes comme créatures, mais la Bible dit qu'il est éternel. Un psaume, dans le psaume 90, les versets 2 et 4, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Je lis ailleurs ceci. « Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. » C'est toujours le psalmiste 147, verset 5. À Dieu, tout est possible. C'est Jésus qui le disait devant l'incrédulité des gens, la perplexité. Aux hommes, ce n'est pas possible, mais à Dieu, cela est possible. Ce point, je le terminerai par ceci. Nous savons tous que Dieu a mis dans le cœur de l'être humain la pensée de l'éternité. J'ai observé mon grand-père. Hélas, il a été tué dans ces génocides que nous avons connus, hélas, qui ne sont pas encore finis en Afrique centrale. Mon grand-père, hélas, n'a jamais mis les pieds dans une église. Ses fils sont allés à l'église, il a refusé catégoriquement, il s'est fermé les oreilles. Mais je l'observais même tout petit, et je les entendais, nos grands-pères, qui bien sûr perpétuaient les traditions de nos ancêtres. Je me suis étonné plus tard, quand j'ai lu la Bible, de voir comment mon grand-père, qui n'avait jamais lu la Bible, n'avait jamais fréquenté une église, savait
Il nous disait qu'il y a un Dieu unique qui existe. Et que ce Dieu, qu'il appelait Imana dans la langue des pays, il est omniprésent, il est omnipotent. Et son grand-père ajoutait, vous savez, c'est tellement compliqué de nous approcher de ce Dieu, d'aller le prier, de le comprendre, qu'il nous faut un médiateur. Le médiateur, ils l'ont imaginé, écoutez, le meilleur qui existait dans la tradition, un héros qui a été bon, il s'appelle Kiranga, à coup sûr, c'est notre médiateur. Dans son aveuglement, il avait quelque part la pensée de l'éternité.
Voilà pourquoi des missionnaires suédois, quand ils sont arrivés chez nous, au début, se sont étonnés de voir comment les gens comprenaient avec une certaine facilité Dieu unique et un médiateur. Parce que dans la pensée de l'éternité que nous avions déjà avec nos ancêtres, cela existait déjà. Non, j'en venais juste pour vous dire ceci. Le Seigneur, qui est si grand, qui est autosuffisant en lui-même, j'ai bien dit autosuffisant, pour être, il n'a pas besoin de moi pour être. Il n'a pas besoin de nous pour être ce qu'il est. Alléluia, nous devons savoir ça. Comment m'a-t-il aimé à ce point, alors que tous ces milliards d'êtres humains, cette terre quand même, vous le savez, par rapport à cet univers, je vais redire que ce n'est même pas un petit grain de sable sur la mer. Comment un Dieu si grand, qui est autosuffisant dans son être, dans son éternité, dans sa sainteté, dans sa toute-puissance, comment a-t-il fait le choix d'aimer à ce point, de m'aimer à ce point, non seulement minuscule, mais comme on le verra tout à l'heure, tourner contre lui, même me comportant comme son ennemi, comme celui qui se bat contre lui. C'était donc le premier point, de savoir penser à qui est donc ce Dieu qui nous aime tant. Deuxième point, il a tant aimé le monde. Le monde, on peut le prendre dans le sens de tout l'univers, tout ce qui existe, l'univers dont je parlais. Et dans cet univers, la petite terre, et cette petite terre, les humains. Nous ne sommes pas les seules créatures sur la terre. Le monde matériel, le monde qui est vivant, dans le vivant, le végétal, l'animal. Mais quand nous observons, dès le départ, Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand je vois le Seigneur qui vient se promener dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il va parler aux plantes? Est-ce qu'il parle aux pierres? Est-ce qu'il parle aux chèvres? Est-ce qu'il parle aux animaux? Il vient chercher qui? Il se dirige vers l'homme. Il vient chercher l'homme. Nous voyons dans la parole de Dieu que les seuls interlocuteurs du Seigneur, eh bien, c'est ces êtres humains, si petits et si révoltés contre lui, de nature. Il a parlé avec Adam, Ève, mais quand ils se sont révoltés contre lui, il ne les a pas abandonnés, il est revenu, il leur a parlé. Il a parlé à d'autres au fil de la Bible, à ceux qui étaient rois, comme David, comme Saül, à des prophètes, à des hommes, à des femmes. Le Seigneur a tant aimé le monde, et dans ce monde, nous savons que, prioritairement, le Seigneur a aimé l'être humain. Nous comprendrons donc que, certes, l'univers entier aura besoin, quelque part, globalement, de cette rédemption. Dans l'Apocalypse, nous le lisons, que cette terre et cet univers qui ont été salis par le péché disparaîtront. Il y aura un nouvel univers. Jean a vu dans cette révélation le Seigneur créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice et la paix habiteront. Mais nous garderons à l'esprit que quand il est dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est l'être humain. Et dans l'être humain, ne pense pas à la foule. Je dois penser à moi aussi à titre personnel. Dieu a cherché l'être humain. Mais quel être humain ? L'actualité est éloquente à ce sujet. Dans ces jours qui viennent de passer, nous avons assisté à des choses compliquées qui font mal, qui peuvent faire peur. Quel homme, quel humain donc? Qu'est-ce que nous observons? Quand je m'observe moi-même, je me pointe du doigt moi-même, mais quand nous observons autour de nous, et c'est dès les premiers, puisque les deux premiers frères, Caïn et Abel, les deux tout premiers, la première fratrie, Caïn se jette sur son frère et le tue. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe ainsi. La méchanceté, la cruauté, la barbarie, la bêtise humaine, l'égoïsme, vouloir nous déifier nous-mêmes, et bien sûr des conséquences. Les maladies, non pas quiconque est malade, il est malade parce qu'il a été puni pour son péché. C'est une parenthèse fermée. Mais cela étant, si le péché n'était jamais entré dans le monde, si la malédiction qui va avec n'était jamais entrée dans le monde, je ne pense pas rien en lisant la Bible, ne nous montre que Adam et Ève étaient créés entre autres choses pour souffrir. Donc il y a des conséquences qui découlent de tout ça, parce qu'il y a eu ce fait de se tourner contre Dieu, la maladie physique, psychologique, les angoisses, les tristesses, la misère, la faim, la nudité, la mort, le deuil, tellement de choses compliquées. Cet homme-là, je dois toujours garder à l'esprit, vous frères et sœurs qui avez connu le Seigneur qui a aimé, il est tellement grand, tellement saint, comment se fait-il qu'il soit allé chercher un homme si minuscule, et si minuscule, si tourné contre lui, si mauvais que je suis, si égoïste? Comment a-t-il fait ce choix-là? C'est bon de cibler ces choses, c'est bon de revenir à ses fondamentaux pour que nous puissions être conséquents. Dieu a tant aimé le monde et dans ce monde, l'être humain. Pourquoi donc ça se passe ainsi? La Bible, elle est claire, c'est bon que nous sachions pourquoi Dieu a procédé ainsi. Pourquoi donc j'ai ces combats-là? Même quand je suis sauvé, je dois faire attention, je dois me battre. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, le monde entier est sous la puissance du malin. Qui a écrit ça? Jean, dans sa première lettre, le chapitre 5 et le verset 19. Il a dit, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Et j'ai regardé dans les notes de bas de page que littéralement, c'est le monde entier gît sous la puissance du malin. Et Jésus, en parlant à ceux qui étaient autour de lui et qui refusaient de l'entendre, qui restaient récalcitrants, qui voyaient les miracles, mais ne voulaient pas croire en lui, il leur a dit ceci, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » C'est écrit dans Jean 8, 44. Et Paul dira ceci, dans Romains 3, 23, « Tous ont péché. » Donc, je le dis non pas pour nous accabler, le Seigneur ne cherche pas à nous accabler, mais c'est bon quand même de nouveau de prendre un zoom et de regarder ces choses. Le Seigneur qui est si grand, si saint, si puissant, éternel, parfait à jamais, il a tourné le regard sur un homme ainsi, qui se comporte ainsi. Tous ont péché. Le meilleur d'entre nous, celui qui a essayé avec toute sa bonne volonté à faire du bien. Il y a des hommes qui n'ont jamais reçu le Seigneur, qui ont fait beaucoup de choses, qui ont aidé des pauvres, qui sont venus au secours du malheureux, qui vraiment ont dépensé beaucoup de sommes, une bonne partie de ce qu'ils avaient pour aimer les autres. Mais devant Dieu, la Bible, elle est claire, toute notre justice devant lui n'est que comme quelque chose de souillé, d'eau complètement insuffisant. Le Seigneur, il a vu ça, que donc je ne pouvais pas m'en sauver moi-même. Troisième point. Il a donné. Est-ce qu'il a donné l'ange? Est-ce qu'il a choisi un archange? Il aurait pu dire, allez, le meilleur là de la troupe, là, le meilleur de ceux qui sont autour de nous, l'archange Michel, viens, la Trinité Sainte, tiens-toi devant nous. On va te donner toute la force nécessaire, le courage nécessaire. Tu vas descendre là-bas. Tu vas accomplir une mission. Il aurait pu faire comme ça. Le Seigneur, ça, quand je l'observe, à genoux devant lui, il y a des moments où on ne trouvait pas les mots, où on sautait devant le Seigneur. Comment le Seigneur a fait le choix du plus proche? Le Père a fait le choix du plus proche de lui. Le Père a fait le choix de donner, de sacrifier le Fils. Allez savoir, ça nous dépassera toujours. Toujours. C'est là que je me dis, dans l'éternité, il y aura de quoi revenir devant Dieu, année après année, siècle après siècle, et devenir à genoux, nous étonner devant le Seigneur. Vraiment. Il a donné Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus, la Bible, elle est claire, il est divin comme le Père. Au commencement était la parole. La parole, ça parle de Jésus. Il parlait de Jésus. Était la parole incarnée. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Le Seigneur, c'est bon que je me rappelle. Et c'est bon que quelqu'un qui ici, peut-être pour les premières fois, sache ceci. Le Seigneur, il a choisi le don suprême. Le don qui se puisse imaginer, le plus grand possible. Vous voyez, s'il ne sacrifiait pas Dieu le Fils, ça signifie que le Père se sacrifiait lui-même. Il devait être là, le président suprême de l'éternité passée et à venir. Il restait sur son trône pour présider, contrôler ça. Il fut un temps, 33 années et quelques, où Dieu le Fils a été sacrifié, a été rendu tellement petit, qu'il a été un homme, comme j'en vois devant moi. D'abord, il a été un bébé. Il a grandi, il a été un ado. Ce que la Bible atteste, c'est que tout le monde voyait que la grâce de Dieu était sur lui, du début à la fin. Tous nous avons péché, il y en a un seul qui, dans son enfance, ado, jeune homme, jusque sur la croix, n'a jamais péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Dieu le Père a choisi, il a choisi le don suprême. Le don au-dessus duquel il n'y avait pas d'autre don possible. Au passage, si vous êtes ici et que vous n'avez pas beaucoup lu la Bible et que vous dites non, tout ça c'est peut-être les inventions de la Bible, eh bien l'historien Joseph, Flavius Joseph, il n'était pas croyant. Il a, dans ce qu'il a écrit, si vous allez le lire et le rechercher, vous trouverez qu'il fait mention de Yeshua, de Jésus, et en voyant les grands miracles qu'il faisait, et bien sûr en étant récalcitrant pour ne pas reconnaître que c'était Dieu le Fils, il parlait de lui comme d'un grand magicien. Flavius Joseph, un historien, qui, à ma connaissance, n'a pas été quelqu'un qui a suivi Jésus ou qui a cru en lui. Jésus, historique, donc on ne peut pas le nier. Mais l'autre preuve, nous sommes en 2012 après Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est pas rien. Cela atteste le caractère historique de la première venue de Jésus-Christ. Nous attendons bien sûr la seconde venue, les gens peuvent être perplexes, mais celui qui avait été prédit qu'il viendrait, il est venu et tout le monde le sait. Le calendrier que nous affichons sur le mur, il est clair, nous sommes en 2012 après Jésus-Christ. C'est bon donc de nous rendre compte de ces choses que le Seigneur a choisi le don suprême. Il faut que je sois conséquent dans ma manière de m'approcher de Dieu, dans ma manière de me tenir devant lui, dans ma manière d'adorer Dieu, dans ma manière d'être reconnaissant, dans ma manière de m'investir. Que, un, je reste modeste, que je reste vraiment modeste, que je reste humble. La meilleure des choses que je pourrais faire pour le Seigneur, que je revienne, comme il le disait à ses disciples, quand vous aurez chassé les démons, quand vous aurez, ils sont revenus, les démons nous obéissent, nous chassons les démons à ton nom. Il dit, écoutez bien, il leur a conseillé la modestie. Considérez-vous comme juste des serviteurs, c'est tout. Donc, je resterai humble et en même temps, j'essaierai d'être vraiment reconnaissant, de réaliser que celui qui est le plus grand, il a choisi le don suprême pour moi, minuscule et misérable et ennemi de Dieu. Le sacrifice pour lequel il était destiné, c'est bon quand même qu'on le lise ou qu'on le relise. Ésaïe 53, nous allons ouvrir notre Bible. Ésaïe 53. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique dans Ésaïe 53. Alors là, ce livre, vous voyez, il a décrit les souffrances de Jésus des siècles avant. Il a écrit ceci à partir du verset 3, 53, Ésaïe 53. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est souciée de ce qu'il était retranché de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints, on a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec les riches, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours. Et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera son regard par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Voilà donc à quel point le Seigneur nous a aimés. Des grandes choses que nous pouvons faire, là, elle est grande quand même, si nous la faisons à genoux devant lui. Si nous fermons les yeux, quelquefois, en prenant le temps de se taire et de repenser à ce que la Bible donne comme la description des souffrances de Jésus-Christ depuis Gethsémané, ce qu'il a sué de sang, comment il a été lié pour que nous soyons déliés, comment il a été meurtri dans son corps pour que nous soyons guéris, comment il a été amené, comment on a craché sur lui, sur Dieu, par qui tout a été créé. Et comment on l'a couché sur la croix, comment on l'a cloué dessus. Je me les vois donc soulevant cette croix et le mettant dans un trou, lui déçu, celui par qui toutes choses ont été créées. Et je me pointais du doigt, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi. Comment il n'a pas ouvert la bouche. Il avait des choses à dire. Il aurait pu dire beaucoup de choses. Il a fermé sa bouche. comme une brebis. Comment? Jusqu'à dire, tout est accompli. Là, il a regardé point par point ce qu'il devait faire pour que notre salut puisse s'accomplir. Il a fait le point et il a dit, tout est accompli. J'ai fait ce que je devais faire. L'amour suprême, c'est ce moment-là. Ce moment-là, les sentiments n'y sont pas. Méfions-nous des sentiments. Quand nous nous donnons au Seigneur, ne nous fions pas aux sentiments. C'est le choix, c'est la volonté, c'est la détermination. Je vais faire ce que le Seigneur m'ordonne. Il me demande de lui donner son cœur, mon cœur, je m'enlève, je vais lui donner ma vie. Il me demande de servir, je ne sais pas ce qui va arriver. Si je me fie aux sentiments, je m'échappe, je m'éloigne. Le Seigneur veut ça, je m'enlève et j'obéis. Le Seigneur, l'amour suprême, le top, le summum, sur la croix, le sentiment n'y était pas. Il n'était pas en train de sourire là. Ce n'était pas la rigolade là. Là, Eli, Eli, lama sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Là, ça ne rigolait pas là. Donc, le Seigneur, quand il nous a aimés tellement, c'était sa volonté, une volonté extrême, celle qu'on racle au plus profond de soi. Est-ce que c'est ce que je vais faire pour non pas faire le mien? Ce que je ferai restera petit, tout petit, par rapport à ce qu'il a fait. Mais est-ce que je vais ne pas me fier à mes sensations, à mes sentiments, et dire, Seigneur, tu me demandes ma vie, je vais te l'apporter. Je sais que ça peut être risqué, mais qu'est-ce que tu as risqué pour moi? Seigneur, je t'obéis. Tu me demandes de te servir, Seigneur, j'obéis. Et y mettre toute la volonté. Non pas que parce que c'est ma volonté qui aura produit les choses, mais celui qui a fait les choses, c'est celui qui nous réconcilie avec Dieu parce qu'il est mort pour nous. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Afin de détruire les œuvres du diable. Non seulement le péché, mais avec la malédiction qui va avec. Les maladies qui vont avec, un jour ça finira. Alléluia, un jour ça finira. Voilà, mes cheveux blanchissent. Je sais que voilà, je vais, hein, il y en a qui sont un peu plus âgés que moi, où les cheveux sont plus blancs que les miens, nos corps, ils s'usent. Mais un jour, qu'est-ce que nous dit la Bible? Jésus dit, il le disait, quelque part, il venait de ressusciter, il allait ressusciter quelqu'un. Il allait ressusciter Lazare qui était mort. On parlait, il disait, mais ton frère ressuscitera. Oui, je sais qu'il ressuscitera, mais il y avait de la perplexité. Et le Seigneur dit ceci, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Alléluia. Il ne mourra jamais. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que Marthe et Marie sont morts? Sont mortes? Elles sont mortes, physiquement parlant. Est-ce que Lazare, il était mort une première fois? Jésus l'a ressuscité. Il est mort une deuxième fois. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « Ils ne mourront jamais ». Il ne ment pas, il dit la vérité. Ça signifie « Quand je suis en toi, moi je suis la vie, je suis le principe de la vie ». De la vie éternelle. Quand je suis à toi, tu vis. On va penser qu'on te met dans le cercueil que tu es mort. Et ceux qui le savent et qui croient en moi sauront que ton corps descend dans le cercueil. On va couvrir là-dessus. Mais ils savent que dans l'esprit, ton esprit, il vit. Et je suis en toi. Et tu viendras te reposer dans mon paradis. Et il y en a qui vont pleurer et dire, c'est fini, il est fini, il est mort. Nous savons que le Seigneur Jésus l'a dit, il ne mourra jamais. Un jour, il reviendra, son de la trompette. À cet moment, ce corps-là qui est dans le cercueil, il sortira de là. Il va rejoindre l'esprit. L'esprit qui était, il y aura Janson qui n'est pas dans, là, dans le tombeau. Un jour, il y aura l'esprit et le corps ressuscités, renouvelés, qui deviendront de nouveau la même personne. Le même individu. Dieu fera ça comment? Ça nous dépasse, ça restera au-delà de notre imagination, mais est-ce que nous le croyons? Alléluia. Nous sommes dans le Seigneur, La mort a été vaincue, nous n'en avons pas peur, Christ a payé, nous nous sommes mis à genoux devant lui humblement. Nous avons reçu par la grâce dans son sang qui pleut de sa croix. Il m'arrive de m'imaginer sous la croix, le sang de Jésus, on l'a transpercé. Et je dis, Seigneur, que ton sang pleuve sur moi, Seigneur. Je vais être pur. Voilà, quand nous nous retrouvons, il a parlé de trop. Il a lâché de moi qu'il ne fallait pas. Seigneur, il pleut le sang sur moi. Que ma bouche soit pure, que ma conscience soit pure. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Courbons le front devant le Seigneur. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, te bénir. Les mots de toutes les langues de la terre ne peuvent pas suffire pour décrire, et même toute notre intelligence est insuffisante pour comprendre la grandeur de ton sacrifice. Mais Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, nous nous remettons encore à genoux devant toi. Ô Jésus, béni sois-tu pour le sacrifice. Béni sois-tu pour Golgotha. Béni sois-tu pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci car Père, tu nous as tellement aimés, nous, pas du tout aimables par nous-mêmes. Tu as fait ce choix, Seigneur, de nous aimer, que tu as donné Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Merci pour son sang qui nous a purifiés. Et en ce moment, Seigneur, ton sang peut purifier quelqu'un qui, en ce moment, se sent sale, qui, en ce moment, Seigneur, se sent vraiment en dehors de toi. En ce moment, Seigneur, nous te demandons, par ton Esprit Saint toi-même, Seigneur, d'agir dans cette personne qui peut-être s'est éloignée de toi. Ô Seigneur, que par toi, que grâce à toi, que par ton intervention, Seigneur, ton aide, cette personne puisse crier à toi de nouveau et te demander, Seigneur, que le sang de Jésus-Christ la purifie et qu'elle parte pure, sainte, redéfinie, renouvelée, Seigneur, et que, Seigneur, elle puisse marcher, ô Seigneur, de victoire en victoire. Je te bénis, Seigneur, car c'est toi qui fais ces choses dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.